fort logiquement. C'est le 8h45, le point sur l'actualité. Bonjour Anne Lorchouin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des étudiants de Sciences Po à Reims sont en grève de la faim, toujours pour protester contre la position de la direction de leur établissement dans le conflit à Gaza. Et puis le dossier de ce 8h45 sera consacré au nouveau plan éco-phyto du gouvernement pour diminuer notre dépendance aux pesticides. Cela couvait depuis des jours. Il semble bien que ce matin, l'offensive israélienne sur Rafah ait débuté. L'armée israélienne annonce en tout cas avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. À l'instant, des forces spéciales inspectent le point de passage. L'armée israélienne précise avoir le contrôle opérationnel de la zone. Les opérations israéliennes se poursuivent donc malgré la rencontre aujourd'hui au Caire des médiateurs entre le Hamas et Israël, toujours autour d'une trêve dont les termes ont été acceptés par le Hamas, mais pas par Israël. On y reviendra dans notre prochain journal à 12h30. Un conflit qui continue de susciter le débat et la colère en France et ailleurs. Hier après-midi, devant Sciences Po Paris, la police est intervenue pour déloger des militants mobilisés qui avaient installé des tentes pour Gaza. Ce matin, le campus est bloqué à nouveau. Et puis à Reims, ils sont 3 étudiants de Sciences Po toujours à avoir cessé de s'alimenter depuis jeudi dernier, après le débat initié par la direction de Sciences Po Paris. Un débat au terme duquel la direction n'a pas accédé aux demandes des manifestants sur les partenariats, notamment avec les universités israéliennes, ni sur les sanctions disciplinaires prises lors des occupations de locaux. Mathieu Laurent a pu joindre ses étudiants grévistes de la faim.
Au fil des occupations, des blocus, après bien des rassemblements, des pétitions, les évacuations, manu militari, des militants de la rue Saint-Guillaume à Paris ont scellé la détermination des 3 élèves de Reims.
On en est arrivé à un stade où on a vraiment l'impression de faire face à un mur, que l'administration nous méprise. Et à ce stade de la lutte, on est presque désespéré en fait. On considère que notre corps est le dernier et ultime mode d'action, si je puis dire, après que nos camarades parisiens nous les suggéraient.
Et la suggestion a été indirecte, mais c'est en soutien à eux qu'on a entamé nous-mêmes cette grève de la faim.
Ont-ils pris la mesure de la gravité que comporte un tel engagement ?
Oui, c'est une décision lourde. Oui, c'est risqué. On est très conscient, justement, de notre décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère.
L'issue du débat de jeudi dernier à Paris aura achevé de les convaincre de passer à l'acte.
On veut que Sciences Po ouvre la parole et soit beaucoup plus transparent quand il s'agit des partenariats, qu'ils soient financiers ou académiques, avec Israël. Et puis, nous demandons également la fin des sanctions pour tous les élèves mobilisés pour la paix à Gaza.
Dans une tribune publiée par le journal Le Monde, Fariba Abdelra, chercheuse à Sciences Po et ancienne prisonnière en Iran, défend leur combat en veillant à ajouter, je cite, « La reconnaissance politique des droits du peuple palestinien a besoin de vos forces ». Pas de votre sacrifice. Fin de citation.
Mathieu Laurent. Et puis, suite de la visite en France de Xi Jinping, le président chinois, après les ordres de l'Élysée hier, Emmanuel Macron l'emmène dans les Pyrénées aujourd'hui pour une escapade qualifiée de personnelle et censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine, notamment où les désaccords commerciaux entre la Chine et l'Europe.
Suite du 8h45 d'Anne Lorchouin, on s'intéresse à un dossier qui empoisonne les relations entre une partie des agriculteurs et le gouvernement, les pesticides.
Oui, le gouvernement a présenté hier sa stratégie de réduction des pesticides, baptisée éco-phyto. Elle était attendue depuis des mois par les défenseurs de l'environnement en particulier, puis mise en pause pendant la crise agricole du début de l'année avant d'être réévaluée. La nouvelle version garde le même objectif de réduction de l'utilisation des pesticides, mais avec un nouvel indicateur et une nouvelle période de référence, ce qui rend moins important l'effort à faire pour atteindre le nouvel objectif. Parmi les autres axes du plan, accélérer la recherche d'alternatives aux pesticides pour anticiper le retrait de certaines substances au niveau européen. C'est un dossier de Catherine Pétillon.
Avec 250 millions dédiés à cette recherche, dans le respect d'un principe, pas d'interdiction sans solution. Le gouvernement reprend ainsi à son compte et dans les mêmes termes une revendication du syndicalisme agricole FNSEA en tête. Même si dans la réalité, il n'aura d'autre choix que de se plier à la réglementation européenne. Or, elle est claire, ce qui détermine l'interdiction d'un produit, ce sont ses effets sur la santé ou l'environnement, et non pas sur l'existence ou non d'une alternative. Pour autant, cela n'empêche pas de chercher des solutions de remplacement de la chimie. Même si en réalité, il en existe déjà beaucoup, à travers le biocontrôle ou le changement de technique culturelle par exemple. Au sein du réseau Défi, 300 fermes démonstratrices ont réduit de moitié leur utilisation des pesticides. Leur financement par le plan Ecophyto est reconduit, mais conditionné à une meilleure diffusion des résultats. Ce que montrent ces fermes, c'est aussi que les obstacles à la réduction des pesticides sont davantage socio-économiques que techniques.
Alors, une partie des agriculteurs veut pouvoir continuer à utiliser ces pesticides, Catherine, alors qu'ils en sont les premières victimes.
Et c'est désormais bien connu grâce aux études épidémiologiques des 30 dernières années, rappelle le sociologue Jean-Noël Jouzel, directeur de recherche au CNRS.
On sait que l'exposition des travailleurs de l'agriculture aux pesticides augmente le risque d'avoir la maladie de Parkinson, des cancers du sang, des leucémies, des lymphomes non-Hodgkiniens, des myélomes multiples, des cancers de la prostate, mais il y a aussi des pathologies respiratoires qui sont reliées de manière maintenant avérée à l'exposition professionnelle aux pesticides. Et puis, il y a beaucoup de soupçons sur d'autres types de pathologies, type maladie d'Alzheimer, des troubles de la fertilité, des problèmes de malformation congénitale.
Ces risques dus à l'exposition aux pesticides dans leur ensemble sont connus, mais il y a moins de données produit par produit. Et tout cela crée pour les agriculteurs le sentiment d'un risque dilué, lointain et somme toute moins important que les risques économiques pour la récolte suivante.
Au niveau individuel, il n'y a pas grand-chose qui incite à ce que ces problématiques de santé soient tout à fait centrales dans les choix agronomiques des agriculteurs. Nous, on a même vu, avec mon collègue Giovanni Prête, là, on a fait une enquête sur les agriculteurs victimes des pesticides, à notre surprise, mais surtout à la grande surprise des environnementalistes qui les ont aidés, quand ils se découvraient malades du fait des pesticides, on pouvait s'attendre à ce qu'il se passe des pesticides, mais bien souvent, les agriculteurs continuent à utiliser des pesticides quand bien même ils sont malades. Donc, autant vous dire que quand c'est juste une perspective d'un risque lointain, c'est loin d'enclencher de manière systématique une démarche de transition.
Seule une politique globale pourra aboutir à des changements. L'objectif précédent, celui d'une baisse de 50% de l'usage des pesticides, a été reconduit dans le nouveau plan Ecophyto. Jusqu'ici, cette baisse n'a jamais eu lieu.
Un dossier signé Catherine Pétillon. Le temps de ce jour, majoritairement frais et agité, sauf sur le nord et le nord-est cet après-midi et sur la Méditerranée, comptez au plus chaud entre 17 et 22 à 23 degrés.